partez pas, ramenez ici. Venez, 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 venez tous. Je suis prédicateur. Et j'ai pas honte de le dire.
Les fondamentalistes américains.
Je suis un chien de garde. Nous voulons entraîner des hommes et des femmes de loi pour être des législateurs, des juges et des leaders qui pourront être comme le sel et la lumière et nous aider à trouver le salut, à ramener cette nation vers Dieu et vers la foi de nos pères.
C'était Jerry Falwell, il faudrait citer aussi parmi d'autres Pat Robertson. Dans les années 1970, une génération de pasteurs fondamentalistes éclot aux États-Unis. Falwell commence avec une petite congrégation qu'il fait grandir. Pat Robertson, de son côté, s'empare du pouvoir dans la Convention baptiste du Sud en 1979. C'est cette même année que Roménie rentre à Téhéran et que des commandos islamistes prennent d'assaut la grande mosquée de la Mecque. Tandis qu'en Europe, Mgr Lefebvre a déjà lancé sa fraternité Saint-Pie-X, qui porte le nom d'un pape intégriste à l'enseignement duquel le catholicisme devrait revenir. Il faut se méfier du vocabulaire qui est toujours approximatif. Cela a tout de même un sens de singulariser l'islamisme en le situant dans le monde musulman, évidemment l'intégrisme dans le monde catholique, le fondamentalisme dans le monde protestant. Ces trois courants croissent en même temps que diminue la foi dans le progrès. Les sociétés qui s'étaient émancipées des vieilles structurations religieuses se trouvent soudain démunies, faute de sens. Et la nature sociale ayant horreur du vide, le projet de rendre à Dieu toute sa place peut se faire entendre. Enfin, un Dieu qui convient à ces courants. Reagan porte cette idée quand il se fait élire à la présidence américaine en 1980. Depuis cette date, le monde a été secoué en tous sens, mais les fondamentalistes trouvent leur justification dans la litanie des catastrophes, justement. L'Apocalypse, qu'ils prennent au pied de la lettre, comme les autres livres de la Bible, ne dit-elle pas que la fin espérée sera précédée du triomphe provisoire de l'Antéchrist ?
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Philippe Joutard. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Joutard, historien réputé du protestantisme, notamment du protestantisme français, mais vous connaissez bien les États-Unis.
Oui.
Et vous participez à un numéro hors-série de Marianne et de l'Histoire consacré aux intégristes. Lequel commence par un papier de Marcel Gauchet, auquel j'ai fait référence implicitement dans le chapeau. Marcel Gauchet dit « Avant les années 1970, c'était le traditionnalisme ». Les religions sont attachées évidemment à leur tradition et il y a un courant dans chaque religion qui est plus traditionnaliste que d'autres. Simplement, depuis les années 70, il y aurait comme une césure. La société aurait complètement largué dans le monde occidental ses amarres religieuses et donc un nouveau projet de remettre Dieu à sa place serait né. Alors vous êtes à la fois d'accord et pas d'accord parce que chez les pèlerins fondateurs des États-Unis,
absolument,
ou chez les protestants du réveil, plus tard au XIXe siècle, il y avait ce projet de
tout
rupture.
Tout à fait. Hein. Je crois que périodiquement, en particulier chez les protestants, qui sont centrés autour de l'écriture, sola scriptura, disait Luther il y a 500 ans, eh bien, ces protestants, dans certains cas, prennent le texte à la lettre, hein, au premier degré. Et en particulier en période de difficulté et de crise. Là où Gauchet a raison, c'est qu'il lit ça à une crise. Mais un siècle avant, ou un peu plus d'un siècle avant, vers 1830-1840, nous avons les adventistes, et qui justement sont en quelque sorte sortis de l'époque de la Révolution, de l'Empire, du bouleversement même de l'Europe et même du monde. Et de la même façon, si vous voulez, ils croient que la fin des temps est proche et ils ont une lecture, là encore, fondamentaliste de la Bible, en insistant beaucoup d'ailleurs sur les derniers temps.
On va raconter un peu plus longuement ce que sont ces adventistes du septième jour en s'appuyant sur un film « Dis-le au monde ». Dis-le au monde. Il y a un prédicateur, le pasteur Miller, nous sommes dans les années 1830, il prédit la fin des temps pour 1844, il emploie le mot « parousie » et il multiplie les conférences et dans ces conférences viennent de nouveaux convertis qui sont émerveillés par l'exemple du père Miller.
bureau, imprimerie de la Gazette.
Alors, la conférence a eu du succès ?
Ils sont venus du Maine, de New York, du Connecticut, du Vermont, du New Hampshire, de Rhode Island. Tellement d'idées ont été présentées. C'était un véritable échange de pensées et d'enthousiasme.
En tant que capitaine, j'ai voyagé de par le monde, mais aujourd'hui, j'ai été transporté au-delà des océans. Je m'engage à parler de la parousie.
Je ressens le même appel.
Moi de même. Mais je dois avouer, j'étais sceptique au début. Mais j'ai étudié les idées de Miller et je crois qu'elles détiennent une vérité merveilleuse.
Ah ! La conférence est terminée et pourtant je vois que la conversation continue.
Je disais juste à ces messieurs que je vais m'investir entièrement.
Je suis très heureux de l'entendre. Je le dirai au père Miller dès que je le verrai.
Vous pourrez aussi lui dire que je vais donner mon argent pour répandre le message de son retour.
Oh, voilà une nouvelle capitale.
L'appel entendu dans une conférence, c'est alors ce mot de parousie, Philippe Joutard.
Alors, c'est la fin des temps, le retour du Christ, le retour du Messie, et qui est évidemment accompagné d'une série de phénomènes extraordinaires. En particulier, les forces du mal qui vont se mettre à combattre très fortement les forces du bien. Une période de bouleversement et qui va, dans certains cas, être même liée à une sorte d'enlèvement des vrais croyants qui sont portés au ciel pendant que les moins croyants sont là à chercher à lutter contre les forces du mal. Et puis, bien en particulier dans un lieu, Armageddon, un lieu d'Israël, dans lequel des forces terribles. Et de l'autre côté, il y a l'Antéchrist, le principe du mal. Et tout ceci va précéder donc des combats très forts. Et puis après, va intervenir 1000 ans, millénium, millénariste, pendant lequel, de nouveau, la paix du Christ va intervenir. Les loups et les brebis, les lions et les agneaux, vont coexister en paix. Et
mais puis, quand, en 1844, je vous interromps dans cette description, parce que le pasteur Miller prévoyait une date fatidique, 1844, quand en 1844 il ne se passe rien, pardonnez-moi cette question de bon sens, ça n'empêche pas les adventistes de demeurer, de se multiplier, ils sont près de 20 millions aujourd'hui.
Ah, tout à fait, mais je crois que ce n'est pas la seule fois. Il y a un personnage, justement, à l'entrée de la décennie 70, Al Lindsay, qui écrit un livre qui s'appelle « The Great Planet Earth »,« Feu, la planète Terre », qui est diffusé à plus de 30 millions d'exemplaires, un des grands best-sellers des années 70, et qui prévoyait très clairement la fin du monde dans la décennie qui allait venir, dans les deux décennies qui allaient venir. Et rien ne s'est passé. Al Lindsay vit encore. Il a d'ailleurs un site sur Internet, et où périodiquement, il voit les signes de la fin du temps.
Alors, c'est un des noms que vous voulez retenir dans cette période de césure des années 1970. Il y a aussi le nom de Pat Robertson, qui a une influence qui dépasse le monde protestant, qui dépasse la convention baptiste qu'il va prendre en 1979, puisque les charismatiques catholiques ont été très influencés eux aussi, par lui. Voilà le récit qu'il fait de sa campagne de conquête de ses co-religionnaires.
J'ai grandi dans une famille de pasteurs, et mon père me disait souvent, « Fils, notre Église va devoir faire face à un grand affrontement. » Et il m'expliquait précisément comment et pourquoi les autres congrégations se mettaient à décliner, parce qu'elles avaient perdu confiance dans la parole de Dieu. Ce que nous avons fait, c'est de nommer un pasteur et un responsable laïc dans chacun des 50 États, et nous les avons aidés à sensibiliser les paroissiens à notre mouvement. Nous avons dû pratiquer une politique de proximité afin de les convaincre de venir à la Convention des Baptistes du Sud pour voter.
La tactique est payante. Lors d'un vote historique que certains ont appelé « la bataille de la Bible », les fondamentalistes reprennent le pouvoir. Les chrétiens progressistes sont balayés.
Et donc, aujourd'hui, les baptistes du Sud ressemblent à leurs pères fondateurs, à ceux qui sont arrivés dans ce pays les premiers en quête de liberté, et qui croyaient en la Bible et en notre Seigneur Jésus-Christ.
Un mot, Philippe Jutard, des autres congrégations dont on dit là qu'elles sont peuplées de chrétiens progressistes, elles peuvent l'être aussi de chrétiens libéraux, mais les fondamentalistes disent ces congrégations se sont bureaucratisées, s'occupent d'actions sociales, elles ne vont pas à l'essentiel.
Par exemple, l'action sociale, ce qui est en cause par exemple, c'est la lutte pour les droits civiques, car dans le même temps, les églises baptistes, en particulier afro-américaines, Martin Luther King en était, avaient réussi à gagner aux États-Unis toute une série de droits. Et en contrepartie, évidemment, les blancs, les petits blancs du Sud, se sentaient complètement démunis ou complètement abandonnés. Et d'une certaine façon, aussi, ce type de fondamentaliste a permis à ces blancs de retrouver un lieu de sociabilité. C'est aussi cela.
La Convention baptiste du Sud, c'est, si on accepte l'Église catholique, qui est la structure unifiée religieuse la plus importante aux États-Unis, la structure la plus vivante.
Oui, la plus vivante, exactement. Et d'ailleurs, c'est un peu, je fais une comparaison qui, évidemment, les horrifiait, ça ressemble un peu à du léninisme. Car si vous remarquez, par exemple, le discours de Pat Robertson, c'est en quelque sorte l'utilisation exactement de méthodes qui ne sont pas sans rappeler les méthodes employées, évidemment, plusieurs décennies avant par Lénine, qui était aussi un grand minoritaire dans l'Union soviétique.
Allez, on va faire le rapprochement, ça va les scandaliser, mais nous sommes maintenant arrivés à cette césure de 79 sur laquelle vous insistez. On va faire un rapprochement avec Roménie en Iran, avec les militants islamistes qui tentent de prendre le contrôle de la grande mosquée à La Mecque la même année.
Ah, tout à fait. D'ailleurs, vous savez qu'il y a des musulmans, bien entendu lettrés, qui ont lu avec beaucoup d'intérêt Al-Lindsay et qui s'en sont même nourris. La lecture n'est pas simplement une lecture à l'intérieur du christianisme. Et d'ailleurs, Jean-Pierre Filiu le montre bien, il y a aussi une sorte d'apocalyptisme dans le monde islamiste.
Jean-Pierre Filiu qui participe à ce même numéro hors-série de Marianne et de l'histoire. Je vous ai interrompu tout à l'heure dans votre description étape par étape de l'apocalyptisme. Quels sont les traits apocalyptiques qu'on peut lire dans les années 1970 et suivantes?
Alors, si vous voulez, l'apocalypse part en réalité d'une sorte de mélange de plusieurs textes. Et c'est d'ailleurs ce qui, du point de vue, évidemment, y compris de l'analyse exégétique, n'a pas de sens. En particulier du texte bien connu de Saint Jean, mais aussi du texte à une époque bien antérieure du prophète Daniel ou d'Ézéchiel, et qui fait allusion à des événements tout à fait différents. C'est ce mélange-là qui fait une sorte d'ensemble. Et alors, dans cet ensemble, il y a des signes. Et parmi ces signes, il y a le retour des Juifs en Palestine.
Ah, c'est là que je voulais vous faire venir. Voilà. 1967, ça a été une date importante,
voilà. Alors,
peu avant 79.
Quand, parce qu'attention, ce mouvement apocalyptique est un mouvement dont on trouve déjà les traces très fortes et les origines, autant des adventistes, autant de notre pasteur qui s'appelle John Darby, qui vient de l'anglicanisme, à l'époque du 19e siècle, il n'y avait pas encore de retour des Juifs en Palestine. Et ils ont déjà été un des éléments du sionisme qu'on appelle le sionisme chrétien. Évidemment, en 48, premier acte, la création de l'État d'Israël. Mais beaucoup plus important, les Juifs qui prennent Jérusalem. Alors attention, qu'on ne s'illusionne pas, ce n'est pas un vrai philosémitisme. Les Juifs sont en quelque sorte mis en valeur parce qu'ils vont être bientôt convertis. C'est-à-dire, attention, qu'ils vont abandonner leur judaïsme. Ils vont reconnaître le vrai Messie. Et à partir du moment où ils reconnaîtront le vrai Messie, c'est à ce moment-là que le Messie pourra revenir une seconde fois.
La décision du Congrès de reconnaître à terme Jérusalem comme la capitale de l'État hébreu, sauf que la décision d'y installer l'ambassade est retardée indéfiniment par un décret présidentiel de tous les 6 mois, ça date de ces années-là d'ailleurs, 1980.
Absolument, exactement. Alors, je ne dis pas que tous ceux qui ont voté étaient mus hein, par ce millénarisme, mais quand même une très grande partie, beaucoup plus grande qu'on ne le croit. Hein. Reagan, lui-même, était en profondeur, bon, bien entendu, ensuite, vis-à-vis de ça, il en prenait, il en laissait, mais il était d'une certaine façon millénariste. Hein. Il croyait en particulier à la présence des forces du mal incarnées par l'antéchrist, par le diable, avec les fameux chiffres du diable. 6, 6, 6.
Ah bah, il n'est pas le seul, hein. 6, 6, 6. 1972, un grand succès, l'album d'Aphrodite Child.
Now comes the capture of the beast.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Avec Philippe Jutard, nous parlons des fondamentalistes américains, à l'occasion entre autres de la parution d'un hors-série Marianne, l'histoire, consacré aux intégristes. Vous insistez beaucoup, Philippe Jutard, sur la sécularisation de l'apocalypse. Alors, je m'explique. On croit être au-dessus de tous les phénomènes religieux et on participe ardemment aux obsèques de Johnny Hallyday et on reconnaît donc qu'on est un animal religieux ou en tout cas qu'on sacralise un certain nombre de personnages ou d'espaces. Et puis alors, on consomme de l'apocalyptisme comme ça,
tout à fait.
Par le disque ou le cinéma, sans s'en rendre compte.
Sans s'en rendre compte. Alors là, évidemment, les Aphrodite Child, c'est typiquement, alors, la mise en scène, en chanson, de l'apocalypse, en strict du terme, on voit tous les termes de l'apocalypse, on voit la bête, on voit Babylone, hein, autre terme de l'apocalypse, on voit là encore l'antéchrist, mais après, il y a une laïcisation, sécularisation. Par exemple, si Coppola, hein, dans son très grand film sur l'enfer du Vietnam, intitulé son film Apocalypse Now, ça n'est pas un hasard. Si vous regardez la grande série qui a un succès mondial, Star Wars, jusqu'à nos jours, jusqu'à 2017, eh bien, en définitive, ça se passe dans une galaxie bien après, et il n'y a aucun mot religieux au sens étroit du terme, mais tous les termes sont en fait religieux, puisque les Jedi, c'est les forces du bien, la lumière, les Sith, c'est les forces du mal. Et vous voyez qu'il y a une prophétie Jedi dans laquelle il doit y avoir un Messie qui doit arriver. Et nous avons aussi l'homme pécheur qui se convertit. Vous pouvez absolument décoder totalement Star Wars à partir de lecture de textes apocalyptiques.
C'est du bricolage religieux. Et alors, vous avez du dieu en kit aussi, qui est fabriqué par chacun d'entre nous. Quand il regarde sur les chaînes de télévision qui sont possédées par les fondamentalistes, la prédication des pasteurs.
Tout à fait. D'ailleurs, il faut reconnaître que ces fondamentalistes qui pourraient nous paraître, entre guillemets, complètement du passé, cette sorte de mythologie des origines, en fait, par un certain côté, ils sont extrêmement modernistes. Ils savent totalement utiliser les moyens modernes de communication. Ils savent même beaucoup mieux les utiliser, par exemple, que les églises traditionnelles contre lesquelles ils s'opposent violemment.
Parce que les églises traditionnelles, elles vont déléguer à la télévision des gens choisis par l'institution, pensant que c'est l'institution qui compte plus que le message, tandis que les télé-prédicateurs, ils savent que c'est le message qui compte plus que l'institution.
Et avec un appel, je me permets l'expression, des gens du terrain, car une grande partie de la prédication fondamentaliste, c'est aussi de faire sortir de la foule des gens qui vont se confesser, qui vont avouer leur péché et comment brusquement ils ont découvert la vraie foi.
Et qui sont des exemples accessibles, donc.
Exactement, en termes extrêmement simples. D'ailleurs, si vous remarquez la prédication des fondamentaux, une prédication extrêmement simple. Quelques mots, il n'y a pas de subtilité théologique. D'une certaine façon, la subtilité théologique, c'est déjà le mal. Car, bien entendu, dans cette idée, le refus de l'exégèse, c'est le refus, par exemple, d'une spiritualité ou d'une religion fondée sur un minimum de raison. C'est uniquement la mise en valeur de l'émotion.
Ce sont ces fondamentalistes qui inventent les méga-churches, qui se sont répandus ensuite dans d'autres courants. On commence à voir en France, dans les grandes surfaces, à proximité des grandes surfaces, dans les lieux de chalandise, des églises nouvelles qui sont créées ex nihilo. Il y a même des dravis. On peut regarder un office depuis sa voiture.
Tout à fait, exactement. Et alors, j'ajoute que c'est en même temps des ambiances très chaleureuses, dans lesquelles vous êtes entouré, permettez-moi l'expression justement d'anglais, c'est un peu du cocooning. Il m'est arrivé d'en suivre quelques-unes, et dès que vous êtes un nouveau, immédiatement vous êtes repéré et on vous englobe. Vous vous sentez, et si vous êtes un peu, permettez l'expression, paumé, eh bien immédiatement vous êtes en quelque sorte rassuré. Il y a aussi tout un aspect d'ailleurs social, d'aide. Autant ils sont contre les grandes réformes sociales, ou contre les grandes mesures, par exemple contre les droits civiques, mais autant sur la charité individuelle, sur ce point-là, il n'y a aucun problème. C'est dans ce sens-là qu'ils arrivent à faire du prosélytisme.
Cependant, on est davantage élu de Dieu quand on est prospère que quand on est pauvre, non ?
Ah bah bien entendu.
Dites ça bien entendu, mais enfin, si on prenait l'évangile au pied de la lettre, heureux les pauvres...
Ah bah bien entendu, on est complètement d'accord, attention. Quand on dit lecture au pied de la lettre, il faut en prendre et en laisser, le contexte n'est pas fait. Et par exemple, ce ne sont pas des gens qui développent l'amour. Si vous avez évoqué tout à l'heure Johnny Hallyday, je pense que le discours à la Madeleine autour de l'amour, c'est pas un discours tellement fondamentaliste, puisque il y a l'amour de Dieu, mais l'amour de Dieu est exclusif. Il y a les réprouvés et les sauvés.
Et ça nécessite, au-delà des cérémonies ponctuelles, une transfusion de sang massive, c'est-à-dire une transformation de la jeunesse, le passage d'une partie de la jeunesse au moins dans des structures de réforme. Alors ça peut passer par des camps de jeunes, si le témoignage de Becky Fisher, une femme pasteur dans un camp de John, mais ça peut aussi passer par les universités. On entendra ensuite des échos de Liberty Université.
How many of you know that this is a pretty sick old world?
Combien savent qu'on vit dans un vieux monde malade?
Well, then let's just fix it.
Alors, réparons-le.
Somebody get your tools out and let's just fix this old world.
Sortez vos outils et réparons ce vieux monde.
Kids, you've got to change things.
C'est à vous de changer les choses.
We got too many Christian grown-ups that are fat and lazy.
Trop de chrétiens adultes sont gros et paresseux. Ils ne veulent pas renoncer à leur dîner, ni jeûner 3 jours, ou même 48 heures.
Do you know Muslims train their children from the time they're 5 years old to fast during the
Les musulmans entraînent leurs enfants dès 5 ans à jeûner le mois du Ramadan.
Listen.
Écoutez.
We hold the keys.
Nous avons les clés.
We can change the world.
Nous pouvons changer
Boys
le monde.
And girls can change the world.
Les garçons et les filles peuvent changer le monde.
Absolutely.
Absolument.
Les étudiants sont des évangélistes triés sur le volet. Pas sur des diplômes, mais sur les recommandations de leur pasteur. John vient de Floride. Il a 24 ans. À la fin de l'année, il aura terminé ses 4 ans d'études pour réaliser son rêve, être missionnaire. Et voici l'un des lieux stratégiques de l'université. Des salles exclusivement réservées à la musique. Un atout essentiel pour les évangélistes.
Alors ici, c'est notre studio d'enregistrement, avec tout l'équipement informatique. Alors il y a des micros et toutes les machines qu'il faut pour produire des CD.
La musique, c'est important pour vos missions chrétiennes ?
La musique est très importante pour les missions chrétiennes. Je crois que c'est Napoléon qui a dit un jour Si vous voulez changer une personne ou changer la culture d'un pays, changez sa musique.
Liberty University, c'est encore une création de Jerry Falwell, qu'on entendait au début de l'émission.
Celui qui a été un des conseillers de Reagan.
Ah.
Et n'oublions pas que son fils a fait le choix de Trump quand il est simplement candidat et quand il est considéré comme quelqu'un de marginal. Et qu'ensuite, il l'a soutenu et qu'il continue à le soutenir aujourd'hui, en particulier en s'attaquant contre les républicains tièdes et contre les évangéliques qui ne veulent pas comprendre que c'est lui l'inspiré de Dieu.
Alors, il faut quand même qu'on fasse une distinction entre ces fondamentalistes et les évangéliques.
Absolument.
On entendait tout à l'heure le mot évangéliste utilisé peut-être de manière trop globale.
Absolument. Attention, il y a des évangéliques en France qui n'ont rien à voir avec ce qu'on vient de voir, qui sont des gens inclusifs et non pas exclusifs. Et il y a aussi aux États-Unis toute une série d'églises évangéliques, en particulier dans le monde institutionnel. Carter a été un évangélique, par exemple. Et évidemment, il est à 100 lieues, je pense, de Trump. Les églises afro-américaines, qui, je l'ai dit tout à l'heure, ont permis la lutte non violente des droits civiques, ce sont des évangéliques. Bien entendu, c'est ça l'habileté, si vous voulez, des fondamentalistes, de dire qu'ils sortent tous ceux qui croient, si vous voulez, fortement au message évangélique. Ça n'est pas du tout la même chose.
Et ils surfent sur le fait que les évangélistes sont la religion qui s'étend le plus dans
absolument,
le monde.
Absolument, tout à fait.
La exactement. Croissance des évangéliques est extrêmement forte.
Tout à fait.
Dans tous les continents.
Dans tous les continents.
Depuis la plaine Saint-Denis jusqu'en Amérique latine.
Absolument, absolument, tout à fait. Et dans ce sens-là, c'est un phénomène qu'on ne mesure pas assez.
Je voulais faire référence à un article qui vient de paraître dans la Civiltà Cattolica, le journal jésuite, surveillé de très près par le Vatican, dont on peut penser qu'il exprime les idées du pape. Cet article dit, attention, il y a une géopolitique apocalyptique qui se met en place. Et il y a un écuménisme de la haine. Parce que qu'est-ce que c'est l'écuménisme traditionnel? Et après, vous nous parlerez de l'écuménisme de la haine.
L'écuménisme traditionnel, c'est au contraire, justement, un effort, d'abord, du respect vis-à-vis des autres confessions chrétiennes. Et au-delà, d'ailleurs, même cette écuménisme maintenant va de plus en plus loin, des diverses spiritualités.
Oui, mais alors l'écuménisme de la haine, dit la Civiltà Cattolica, repose sur l'union autour de la lutte contre l'avortement, le mariage gay, pour l'éducation religieuse à l'école, etc. Et il diffère donc beaucoup de l'écuménisme traditionnel.
Si vous voulez, c'est un écuménisme exclusif, l'écuménisme de la haine. Et d'ailleurs, vous n'avez qu'à voir le ton des prédicateurs. Il y a d'un côté les forces du mal, qui apparemment sont les plus fortes, et d'autre côté les forces du bien, qui vont finalement l'emporter grâce à l'arrivée du Messie. Mais donc toute la, disons, rhétorique du fondamentalisme millénariste, c'est une rhétorique de l'opposition du bien et du mal. C'est toujours binaire, et bien entendu, tout ce qui n'est pas d'accord avec les fondamentalistes, c'est le mal. Et y compris d'ailleurs les gens qui sont très proches. Les adversaires des fondamentalistes, ce sont souvent les églises institutionnelles dont ils sont issus.
Merci à vous, Philippe Joutard. Je fais référence à ce numéro, Marianne, l'histoire consacrée aux intégrismes. L'émission a été réalisée par Valérie Aestaray, qui tenait aussi le rôle d'une pasteur frénétique, enfin en tant qu'interprète que traductrice. La technique, c'était Eric Morin, la préparation, Franck Olivard. Et chez vous, Mathieu Vidard?
Eh bien Jean, une émission auto-centrée aujourd'hui, puisqu'on va s'intéresser à nous, les mammifères.
Ah, nous descendons des mammifères, c'est une grande question que les fondamentalistes posent, mais pas exactement dans ces termes, je le concède. Dans un instant, la tête au carré.